RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
S'il ne faut jamais tirer d'enseignement définitif d'un match contre l'Italie, l'équipe de France a malgré tout ramené de Rome une copie presque parfaite. Match abouti, discipline retrouvée, jambes de feu, les Bleus nous ont régalé et nous font croire de plus en plus en des lendemains qui chantent d'autant que nos futurs adversaires dans ce tournoi, Écosse mis à part, n'ont pas montré grand chose. Alors, les étoiles sont-elles enfin alignées pour une victoire française dans le tournoi? On se pose la question dans un instant. Entre les poteaux, des Bleus qui régalent, si Dupont confirme match après match qu'il est sans doute le meilleur numéro 9 au monde. Que dire de Teddy Thomas, artiste de métier, ailier funambule, brillant en bleu, mais dont son club de presque toujours, le Racing, ne veut plus. Teddy, c'est notre frelon de la semaine. Enfin, la boîte à gifs, désormais, c'est Pierre Amiche qui l'ouvrira tous les lundis. Et vous allez l'entendre, ses coups de plume sont bien plus percutants que les coups de poing qu'il a sénés tous les week-ends lorsqu'il était à l'honneur. Les poteaux du jour, les voici. Notre artiste et doyen, c'est évidemment Denis Charvet. Bonjour monsieur,
bonjour.
Comment allez-vous?
C'était super, j'étais à Rome, c'était super.
Ça y est, ça recommence. Il va nous faire comme ça pendant 6 mois. C'est un running gag. À ses côtés, Manu Massicard, le taulier des poteaux et du Midi Olympique. Salut Manu.
Salut les amis.
Et puis une paire de francs-tireurs que le Stade Rochelet, à son grand regret, a laissé échapper. Et oui, Wilfried Pompillet et Pierre Amiche.
Bon, surtout Wilfried.
Salut à tous. Sauf ceux qui n'étaient pas au soleil samedi dernier.
Oui. Allez, si tout le monde est prêt, on donne tout de suite le coup d'envoi et la première mêlée des poteaux.
L'action, l'idée.
Alors si les victoires contre l'Italie sont la règle, hein, 42 succès en 45 matchs dans l'histoire des confrontations, en revanche, leur passer une déculottée n'arrive que très rarement, c'est la quatrième fois seulement que l'écart de points à la fin du match égale ou dépasse les 40 points. Alors, est-ce la faute de l'Italie qui ne cesse de s'enfoncer dans les oubliettes du tournoi ou bien celle de nos Bleus qui, sous la férule de Galtier et de sa bande, sont devenus méthodiques, froids et impitoyables? Là est toute la question. Les Bleus, qui en tout cas savent désormais apprendre de leurs erreurs, l'an dernier, la victoire dans le tournoi leur avait échappé pour 23 petits points seulement. Leçon retenue, c'est ce qu'expliquait Gabin Villiers à la fin du match.
L'année dernière, on voit que voilà, on aurait peut-être pu finir plus haut dans le classement et remporter le 6 Nations si on avait un peu mieux joué contre l'Italie et marqué plus de points. Donc de gagner avec un écart comme ça et voilà, de vraiment d'être, je pense, constant sur l'ensemble du match, ça nous lance vraiment dans le tournoi et sur de très bonnes bases. Donc c'est vraiment important pour nous et voilà, ça nous fait une bonne base pour commencer ce 6 Nations.
Donc lancé voilà, comme des frelons nos Bleus, on l'a compris messieurs, le romantisme, le côté latin de l'équipe de France a semble-t-il disparu, c'est désormais une équipe britannique, véritable équipe britannique, pragmatique, efficace et impitoyable. Est-ce que tu adhères à cette nouvelle philosophie?
Oui, alors j'allais te dire, c'est presque l'équipe d'Angleterre de la dernière Coupe du Monde, un peu le même style de jeu. Très méthodique, très réaliste, mais on peut dire qu'il y a 2 ans, l'équipe de France n'aurait jamais gagné ce match par 40 points. Donc c'est là où elle a progressé dans la gestion, dans l'alternance, dans la discipline, parce qu'on a vu que maintenant, ils étaient très branchés quand même sur ce côté, sur ce secteur-là. Il y a eu 8 fautes. Je crois 8 pénalités, c'est ça?
9.
Oui, dont 6 dans les 20 premières minutes, et ensuite, effectivement, il y a eu beaucoup moins.
Mais après, on a apprécié justement cette méthodologie. On le sait que Fabien Galtier prône et qu'il a mis en place avec son staff. Il prépare bien les matchs. Il faut que ça continue, mais en même temps, le tournoi, il commence dimanche.
Manu, dans Middle, aujourd'hui, vous parliez de monstre froid pour évoquer l'équipe de France.
Oui, parce qu'au-delà de cette capacité à être froid et à réciter un rugby, à maîtriser les solutions, à pas surjouer, à être patient. Il y a aussi le talent de cette équipe de ces joueurs qui est tout simplement incroyable. J'ai envie de dire qu'on n'a pas vu une très très grande équipe de France. On a vu une équipe de France appliquée,
clinique,
mais surtout qui est portée par des joueurs hors normes. Permettez-moi quand même de relativiser un tout petit peu.
Bah oui.
On était face à une équipe de deuxième ou troisième division
de Pro D2.
C'est ce que j'ai dit en préambule.
C'était un entraînement, un aimable entraînement, un galop d'essai à faible intensité.
Oui, mais ça marchait à l'automne. Tu te posais la question, est-ce que ça marchera dimanche dernier? On a mis 38 points au galop à l'automne, on a mis 35 points à l'Irlande, on a tenu tête à l'Angleterre avec une équipe soi-disant B. Donc ça commence à être constant quand même là. Hein,
non, mais là le l'USAP Perpignan, je pense qu'il les gagne. Hein, donc il faut trop relativiser. Tu as raison de relativiser, Manu, parce que le vrai démarrage, ça va être dimanche contre l'Irlande. Surtout après ce que nous a montré le visage de l'Irlande, qui m'a beaucoup plu, moi, à 14 contre 15. Les Irlandais qu'on n'attendait plus et qui finalement reviennent à un niveau intéressant.
Ce que je veux dire aussi, c'est que cette équipe de France, elle n'a pas eu à forcer son talent ni son organisation pour l'emporter. Oui. On a très très vite marqué. Parfois même, on a l'impression qu'on marquait au ralenti.
Mais on marquait quand on voulait. Hein.
Exactement.
C'est vraiment.
Donc oui, Wilfried, tu as raison. S'il y a une continuité, il y a une dans la performance. Il y a des scores qui marquent, qui les esprits, hein, pas simplement les adversaires, les esprits. Le Pays de Galles, l'Angleterre, ici l'Italie.
Oui, mais
la vérité, c'est la semaine prochaine.
Manu, je suis d'accord avec toi, mais avant ce genre de match, on s'emmerdait face aux Italiens, on galérait pendant 40 minutes, pendant une heure. La progression de cette équipe de France, elle est là. Maintenant, il faut confirmer.
Voilà.
On attend la confirmation.
On progresse, juste Denis, on progresse. L'année dernière, alors je faisais remarquer, personne l'a dit, si avec ce score-là, on gagnait le tournoi. Ils se sont mangé la feuille de match en se disant on a perdu le tournoi à la différence
plus
de points 13, seulement.
Plus 13 seulement
plus
pour l'équipe de France
dernière,
l'année dernière.
Avec le plus 40, on gagnait le tournoi.
Et
ils
se
sont dit, ils l'ont répété toute la semaine, il faut mettre le tarif. Oui, l'Italie est faible, ok. Et ils ont mis le tarif, on passe à autre chose.
Oui, mais il y a un bémol, c'est pas la même équipe d'Italie l'année dernière.
Exactement.
C'est pas du tout la même équipe. Je suis désolé, cette année, c'est des jeunes. Elle est très faible cette année. L'année dernière, on les a pas mis les 40 points parce que les Italiens se sont accrochés jusqu'au bout.
Il y avait que des enseignements négatifs à risquer sur ce match. Les positifs.
D'accord.
Donc, allez, on passe à autre chose. On s'était pris les pieds dans le tapis, là, on serait remis la tête à l'envers et tout. Là, on a fait le job. 40 points, oui, ils sont faibles. Mais bon,
on va juste conclure par le fait qu'on est dans la maîtrise.
Tu l'as dit, le tournoi commence dimanche
prochain. On est dans la maîtrise, mais on est dans la maîtrise face à une petite adversaire. Maintenant, il faut de la maîtrise face à un adversaire costaud, valeureux, que va représenter l'Irlande.
On parle de l'Italie, des points qu'on n'a pas marqués l'année dernière, mais on peut aussi parler du point de bonus défensif qu'on a offert à l'Angleterre l'année dernière.
Oui,
Est-ce que tu penses que si on se retrouvait cette année dans la même situation, est-ce qu'on laisserait le point défensif à l'Angleterre? Parce que on a l'impression quand même que cette équipe de France apprend de ses erreurs, apprend de ses problèmes l'année dernière. Bah, elle a laissé échapper le tournoi pour ce point de bonus défensif et pour les points qu'elle n'a pas marqués face à l'Italie. Mais aujourd'hui, elle a retenu les.
Oui, mais il y a quand même une interrogation. L'année dernière, on l'encensait cette équipe de France, elle a chuté en Écosse. On l'attendait pas du tout cette chute. Il faudrait pas qu'il y ait encore une fois un faux pas, et après tout va être remis en question. Donc aujourd'hui, allons-y étape par étape.
Ouais. Tu peux pas réécrire l'histoire parce qu'on a laissé un point de bonus défensif à l'Angleterre, mais on les a battus après une série incroyable de branlées face à l'Angleterre. Ce point de bonus défensif laissé, on l'a pas retenu parce qu'on a retenu la victoire d'un groupe qui venait juste de naître.
Oui.
Peut-être qu'aujourd'hui, on leur laisserait pas le point de bonus défensif, peut-être. Ou peut-être qu'on perdrait ce match-là. On peut pas savoir, on peut pas réécrire l'histoire.
Alors, ils sont cliniques et méthodiques, nos bleus, mais ils sont surtout brillants et géniaux. Les attaquants français nous ont régalés. Antoine Dupont en tête, auteur d'un essai de 4 passes décisives et de gestes incroyables lors des moments clés dans la rencontre. On le dit et le répète, semaine après semaine, Dupont est au sommet de son art, sans doute le meilleur numéro 9 au monde, peut-être même le meilleur joueur de la planète. Bon, je m'emballe évidemment,
ce n'était que
l'Italie, on le répète une nouvelle fois, mais malgré tout, lui, face à n'importe quel adversaire, il a toujours ce niveau de jeu.
Moi, ce qui m'épate chez ce garçon, c'est qu'il pue le rugby, quoi. Il a un instinct naturellement j'ai rarement vu des joueurs comme ça qui se placent au bon endroit au bon moment. Et puis là, il a progressé énormément sur son jeu au pied. Il a été extraordinaire.
Il l'avait pas avant.
Samedi, il l'avait pas comme ça. Je trouve qu'il a beaucoup évolué. C'était un peu son point faible. Puis après, je le trouvais juste dans l'alternance, dans ses choix. Il a pris une autre dimension. C'est un super joueur.
Mais à chaque match, il nous sort quelque chose, quoi. À chaque match, on en fait des tonnes de Dupont. Il y en a partout. Dupont,
tu sais ce qui m'étonne
la semaine avant le match, et il y a quand même on est toujours émerveillé à un moment.
Ouais, puis ce qui m'étonne chez lui, c'est qu'il reste avec beaucoup de sérénité. C'est-à-dire qu'il a pas attrapé le boulard, comme on dit. Tout le monde l'encense en ce moment, sans arrêt.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai le sentiment qu'il est presque en train d'inventer un poste. Enfin, j'ai aucun souvenir d'un joueur qui est aussi fort avec les avants dans sa gestion et qui est capable de finir les coups, de franchir, de se proposer, et puis en défense il est. Il décroche, il est dans le troisième rideau ou il vient couvrir légèrement derrière son premier rideau. Lui, il est sur le premier rideau,
ça vient de ses qualités, de ses facultés.
Mais il s'économise nulle part.
C'est bien d'avoir des qualités dans tous les domaines du jeu.
Et 80 et un joueur de cette qualité-là, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Et dans ce registre-là, je vous dis, j'ai presque le sentiment qu'il est en train de créer un nouveau poste.
On a interrogé les anciens demi-mêlés de l'équipe de France la semaine dernière et Guy Akosseberry nous disait ça. Il, une fois qu'il est dans la ligne, en attaque, alors la défense, ouais, c'est Jean-Baptiste Elissat qui nous soulignait aussi dans le premier rideau, mais Akosseberry disait quand il est dans la ligne en attaque, il est capable d'être comme le meilleur ailier du monde.
C'est ça.
D'être un marqueur, d'être un... Et ça existait moins les années d'avant quand même des demi-mêlés comme ça.
Le seul bémol pour moi, c'est peut-être la mainmise qu'il a sur le paquet d'avant.
Il a progressé, Manu.
Oui, bien sûr qu'il a progressé, mais il peut encore progresser.
Ouais, et puis il faut voir quand tu avances ou tu recules, c'est pas la même
chose. Tu penses qu'il mène pas assez les gros, il les a pas encore en main complètement.
Alors si tu veux, il y a deux choses. J'ai pas envie de lui dire il manque ça parce que c'est déjà un joueur hors norme. Et moi, je suis très clair, ce n'est pas l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est aujourd'hui le meilleur joueur du monde.
Bien sûr.
On l'a chez nous et il faut s'en féliciter. Et surtout, arrêtons de jouer les pistes froides. Il lui manque ci, il lui manque ça. Simplement, juste le tableau, il n'est pas parfait. Et ce gamin-là, dans quelques années, il va encore prendre encore plus d'épaisseur et ça va être le vrai taulier de l'équipe de France. On n'en est qu'au début de l'histoire avec lui.
Tu as raison. Et puis, ce qui est
Ça va tanguer un peu. Quand ça va être dur pour les avant-français et tout.
C'est là où il va falloir qu'il progresse. Mais ce qui est extraordinaire aussi, on l'a pas dit, c'est qu'il revient d'une grave blessure quand même pour un joueur de rugby. En plus, avec ses appuis comme ça, se péter les croisés et revenir aussi fort.
Ça l'a rendu meilleur. Mais ça l'a rendu meilleur.
Non, mais c'est ça qui est fabuleux chez lui. C'est-à-dire que normalement.
C'était 2018 maintenant. Il est revenu en septembre 2018.
Ouais, mais
il y a tellement de joueurs qui ne s'en sont pas remis
de ça, Will. Il a gardé sa fraîcheur, il est
incroyable.
Tout
avec sa musculature.
Antoine, qui était donc aligné en charnière, non pas aux côtés de son compère toulousain Ntamack, blessé, forfait pour le reste du tournoi, mais avec Mathieu Jalibert, le Bordelais. Est-ce que le duo vous a séduit et convaincu, Denis?
Bah écoute, moi oui, parce que c'est Mathieu Jalibert, je trouve qu'il est rentré avec les codes aussi qu'on lui a imposés. Hein. On voit bien qu'il est quand même sur la retenue. Hein. Il est très sobre au pied, il a été très bon au pied. Dans l'alternance, il a été bon. Mais bon, voilà, c'est
la même problématique que pour tous les joueurs dans ce match-là. C'est aujourd'hui comment juger une prestation face à une aussi faible équipe d'Italie.
C'est ça.
Jalibert et Dupont, est-ce qu'ils ont été convaincants? Bof, parce que finalement, ils ont finalement assez peu dynamisé, assez peu attaqué la ligne. Le peu de fois où Jalibert l'a fait, il a traversé. Le peu de fois où Dupont l'a fait, il a traversé. Je suis pas convaincu, c'est pas un grand match référence
et où tu peux pas sortir beau une grande analyse de ce match.
La seule critique que je pourrais émettre, c'est que j'ai trouvé les Bleus vraiment pas du tout agressifs en défense. Il y a quasiment eu aucune montée et finalement je me demande si c'est pas Jalibert qui commandait les montées de manière un peu molle ou si c'est le système qui voulait ça.
En mi-temps, Pierre.
Oui, sur 60 minutes
Il y a eu des tampons.
Je te parle pas de la défense individuelle.
Il a cassé les Italiens.
Il te parle de la défense collective.
Je te parle collectivement. Le système manquait d'agressivité. C'est-à-dire que quand on prend 19 temps de jeu par une équipe italienne qui joue à deux à l'heure avec des joueurs pas très adroits, c'est quand même qu'on met pas une énorme pression. On les a pas poussés à la faute. Et c'est un peu le jeu de dépossession. Voilà, c'est la grande mode. Il faut leur laisser le ballon pour pouvoir derrière les contre-attaquer. Mais voilà, je trouve que Jalibert a peut-être manqué d'agressivité un petit peu en défense.
C'est vrai que c'est la première fois où on a vu une équipe de France qui était aussi peu agressif sur le milieu de terrain.
Ouais, c'est ça.
Alors, est-ce que c'est Ficou? Est-ce que c'est Jalibert? Est-ce que c'était la volonté de laisser les Italiens s'user davantage qu'on ne le fait avec d'autres adversaires? J'en sais rien.
L'impression que moi j'ai eue de l'extérieur, c'est l'impression que l'équipe de France n'avait pas encore son top niveau physiquement.
Les Italiens non plus. Hein.
Oui, mais alors les Italiens n'en parlons pas. Non, mais heureusement que la France n'est pas encore à son troisième match parce que ça serait une boucherie. Mais je pense qu'ils vont monter crescendo et que là,
les Italiens aussi, Franco Smith, il a.
Oui, Franco Smith, il est quand même
convaincu
de son niveau de jeu.
Il n'est pas si haut que ça.
Vous l'avez vu, Yohané, un moment? Même Moscato, il courait plus vite que lui.
Alors, autre jeune joueur qui était attendu au coin du bois ce week-end, c'était Arthur Vincent, qui avait la rude tâche de faire oublier Virimi Vakatawa. Pression qu'il a particulièrement bien gérée, j'ai trouvé. Impeccable en défense, énorme en attaque. C'est plutôt rassurant. Ça montre que le vivier français, là aussi, c'était que face à l'Italie.
Ouais. Mais en tout cas, c'est le successeur de Vincent Clerc, hein. Le gendre idéal.
Oui,
c'est le surnom de Vincent Clerc. Il a rien qui déborde chez Arthur Vincent. Tout est parfait. Hein. Il a 15
invité,
partout.
Invité hier soir du RMC Sport Show. Et effectivement, il est tout mignon et tout sage. Mais bon, c'est un très beau joueur de rugby.
Sacré joueur.
Et puis, on pourrait aussi évoquer évidemment les magnifiques prestations de Dulin à l'arrière, de Villiers à l'aile. Ces trois quarts ont été énormes. Et nous, le trophée de Frelon du week-end, on a choisi de le confier à Teddy Thomas.
RMC, entre les poteaux,
lancé comme un frelon.
L'ailier du Racing, qui à l'image de ses compères, la ligne des trois quarts, a été étincelant et décisif. Deux essais inscrits, des accélérations dans la défense qui nous rappellent les plus belles heures du rugby français. Ce garçon, lorsqu'il joue à ce niveau, est tout simplement génial. Pourtant, Wilfried, Teddy Thomas se retrouvera à la fin de la saison sans club. Enfin, je pense qu'il en aura trouvé un d'ici là. Lorenzetti, le patron du Racing, ne veut plus de lui. Cela semble complètement hallucinant vu le niveau de jeu et qu'il a montré ce week-end.
Ouais, c'est sûr, quand on mesure le talent de Teddy Thomas, alors parfois en alternance, c'est vrai, mais qui reste sur la stat hallucinante de 15 essais en seulement 23 sélections. Je sais pas si vous imaginez le pourcentage de réussite qu'il a en équipe de France, et c'est quand même un tueur à ce niveau-là, et personne ne fait aussi bien que lui. Et quand il veut, personne peut résister à son accélération, qui est foudroyante, à son crochet inter, hein, qui doit plaire beaucoup à Denis Charvet, qui laisse les défenses le nez dans le gazon, et puis sa faculté à traverser le terrain, hein. Quand il déplie ses compas là, c'est un athlète, c'est vraiment un athlète, on le voit sur le terrain. Mais Teddy Thomas, c'est aussi des manques en défense. 3 plaquages loupés samedi dernier sur seulement 5 tentés, ce qui est énorme à ce niveau, hein, un tel déchet. Des manques, on l'a déjà dit avant, dans les airs sur des matchs de très haut niveau, ou des manques sur sa concentration. Souvenez-vous, la finale de Coupe d'Europe avec le Racing face au Leinster, où il joue une touche rapidement, il entraîne une pénalité contre le Racing qui fait passer les Irlandais devant au score. C'est aussi ça, Teddy Thomas. Alors, le Racing a fait un choix, poussé peut-être aussi par ses blessures ces dernières années, mais aussi par l'émergence de Donovan Taofifenua, que le club devine certainement comme un futur phénomène, et par une réflexion poussée par une réflexion concernant peut-être la masse salariale, hein, parce que Teddy Thomas c'est pas gratuit, le talent ça se paye, ou tout du moins c'est pour le moment plus cher que Donovan Taofifenua.
Il y a qu'un poste dédié au Racing.
Oui, il y en a deux.
Dupichot, Imhoff, Clément.
Oui, non, mais oui, Dupichot, Imhoff, mais il y a Taofifenua qui sort dernièrement et qui est une grosse cote.
Il sera bien au Stade Toulousain, il sera très bien ce garçon.
Ah ouais, alors donc tu as des infos, c'est au Stade Toulousain.
Non, j'aimerais bien le voir là-bas. Moi, j'ai joué 10 ans, donc c'est un peu mon club.
Tu as joué au Racing aussi quand même.
Mais non, mais le Racing. Je pense que le Racing, c'est pas une sanction. Je pense que sincèrement, moi, je vois pas ça comme une sanction.
C'est un mauvais choix en tout cas.
Je pense que ça fait un moment que il a fait 7 ans qu'il est là. Il a été un peu trop blessé à mon goût, pas mon goût, au goût du Racing. Je pense c'est ça qui a pesé dans la balance.
Manu, tu penses que c'est un mauvais choix de la part de Lorenzetti ?
C'est un joueur hors norme. On a parlé de Dupont. Lui aussi, c'est un joueur hors norme. Wilfried l'a dit, il a des talents, enfin, 15 essais en 23 sélections. Il est parti, ça peut être stratosphérique. Arrêtons de lui demander de changer et d'être parfait en défense ou parfait sous les ballons. Il a des points forts que personne n'a d'autre.
Il faut
le garder comme ça et surtout ne pas le faire changer. C'est un joueur qui peut nous amener un frisson unique.
Merci.
Putain,
Manu.
Mais gardons-le. Arrêtons de jouer les pistes froides.
Mais c'est un problème du cas des dates de 20, de 30, 40 ans, Manu.
C'est un problème de toujours, Denis. Je suis d'accord avec toi.
Souviens-toi. Enfin, moi, j'allais.
Denis Charvet, des
codeurs à une époque. Bien sûr,
mais il y a toujours eu le fantasme des gros, des mecs qui savaient sauter au ballon. À ce moment-là, ils vont jouer au rugby, le rules, je sais pas comment ça s'appelle.
Australien.
On
lui reproche. Mais on s'emmerde à pas marquer d'essai. Là, on a
raison.
Des mecs qui claquent de partout. Mais putain, mais qui le joue?
Et on lui reproche quoi? Sa défense, les ballons, on s'en fout. Il traverse le terrain. C'est un joueur qui. Voilà, c'est pour lui qu'on va payer sa place pour aller au stade. C'est pour des joueurs comme ça.
Tu as raison.
Moi, je m'en fous d'avoir un gars qui fait tout parfaitement à 13 sur 20.
Ouais, sauf si tu coupes un match.
Oui, mais combien il va t'en faire gagner?
À ce moment-là, tu ne le mets pas dans tous les matchs.
Non, mais là, Wilfried a soulevé le vrai problème de Teddy Thomas, c'est que parfois, il peut te coûter
et combien t'en fais gagner et combien t'en fais gagner
oui
et combien t'en fais gagner et puis 15 essais en 23 sélections, c'est ça les chiffres. Huguet, qui était considéré comme le meilleur ailier de sa génération en France, 14 essais en 62 sélections.
Mais
c'est un phénomène. Il aurait été fidjien, aurait été dans une autre nationalité, un néo-zélandais, on serait là touché sur ses vidéos YouTube.
Mais Pierre,
il faut arrêter les conneries. Teddy Thomas, c'est pas un joueur parfait, mais je préfère avoir un joueur qui a 20 sur 20 sur un domaine que des joueurs qui ont 12 sur 20 partout. On s'ennuie avec eux. Teddy Thomas, c'est le frisson perpétuel, même quand on est supporter de sa propre
équipe. Quel frisson.
Mais Manu, tu sais, en plus, je vais dans ton sens, Pierre, parce que c'est un garçon, il pas progresser. Il a des lacunes, il faut les accepter tout simplement.
Et on capitalise sur ses qualités.
Et après,
moi, j'ai pas, surtout il faut pas envie de le faire progresser sur ses lacunes. Hein.
Non, mais
j'ai envie qu'il reste comme ça.
Oui, mais après, il faut insister sur son côté.
Et qu'on s'organise pour l'aider. Mais quel plaisir de le voir sur le terrain. Ouais.
Et franchement, moi, je me fais une joie de l'imaginer avec le maillot du Stade Toulousain.
On va se régaler. Hein,
Wilfried, j'imagine encore un peu plus.
Colby a une aile.
Je pense que c'est le club où il faut qu'il aille. C'est pas un conseil. c'est parce que je pense qu'il y a l'émulation là-bas qui va peut-être lui faire monter
c'est
une marche.
C'est dur pour Lebel, c'est dur pour... les gamins qui poussaient arrière.
Mais au Stade Toulousain, t'as pas deux ailiers. T'as besoin de 4-5 ailiers au Stade Toulousain, Manu.
Puis c'est comme au Racing, il y a deux ailes. Hein. On peut quand même faire jouer Colby et Thomas.
Non, puis en plus UG arrête à la fin de l'année. Voilà. UG arrête à la fin de l'année. Maxime Médard va faire au mieux un an de plus.
Et Colby joue souvent arrière.
Donc t'as Colby à l'arrière.
T'as trois places pour quatre. T'as trois, quatre joueurs pour
la Rochelle.
Colby et Thomas.
Alors,
il y a Lyon qui est sur le coup. Ouais. Donc ils ont deux, trois, enfin il y a plusieurs clubs, hein. Mais il y a surtout Toulouse et Lyon.
Enfin, si j'étais Teddy Thomas,
ah ben moi je serais déjà là-bas. Moi.
Et pourtant je suis pas supporter de Stade Toulousain, à la différence de Denis. Allez messieurs, il est l'heure de se chauffer un peu les joues, voici la boîte à gifles.
RMC, entre les poteaux,
la boîte à gifles.
Une boîte à gifles qui change donc de format, puisque désormais c'est Pierre, notre sniper préféré, qui viendra balancer quelques tartes à certains acteurs du rugby. Pierrot, aujourd'hui tu as donc décidé de t'attaquer au génie australien de l'Angleterre, le sélectionneur Eddie Jones.
Eh ouais, parce que le monde en rêvait, et Eddie Jones l'a fait rendre l'équipe d'Angleterre à la fois détestable et inoffensive. Eddie Jones, c'est le magicien qui a réussi en moins d'un an à transformer l'équipe la plus excitante de la planète, finaliste de la Coupe du Monde, tombeuse des grands All Blacks, à une équipe qui est à la fois chiante et énervante. Bah bravo. Un tour de force qu'il réalise sans même changer ses joueurs. Il est tellement doué, ce professeur Jones. On lui file une Ferrari, il te rend une Renault Fuego. Quel talent. Et puis lui qui donne des leçons tout le temps à tout le monde. Lui qui se gossait d'avoir une équipe hors du commun. Lui qui mettait en garde les Bleus il y a un an, rappelez-vous, en menaçant cette jeune équipe de France, je cite, d'un niveau d'intensité et de violence physique jamais vu. Bon, victoire des Bleus. Lui qui disait en toute humilité, si un extraterrestre débarque sur Terre, je veux qu'il puisse dire eux, ce sont des joueurs du 15 d'Angleterre. Et ben mission accomplie, Eddie, parce qu'il a hérité d'une équipe de rugby, il en a fait une équipe de catcheurs mexicains. À sa prise de fonction, il avait dit aussi vouloir revenir au jeu anglais sans compromis. Ben là encore, mission accomplie, une belle brochette de cyborgs mutants décérébrés, incapables de jouer un 7 contre 2. Ça arrivait trois fois dans le match contre l'Écosse, et qui applique un plan de jeu aux petits oignons, un pétage de gueule chandelle. Bilan face à l'Écosse, zéro franchissement, 15 pénalités concédées. Un hommage aux plus belles heures du rugby pénible. Bon, la bagarre en moins. En tout cas, c'est beau d'avoir tous ces petits soldats tellement effrayés par leur général qu'ils préfèrent partir au suicide que de remettre en question le plan. Quand Farrell, Ford, Itoje, Daly, Watson, Slade, Youngs, Vunipola deviennent des simples machines à réciter, eh ben c'est quelque part le rugby que j'aime qui est un peu mort. Et puis, il faut dire que sa stratégie visant à endormir la tribune, elle est pas mal remise en question depuis le huis clos, et que malgré son bilan à 3 victoires dans le tournoi, une finale de Coupe du Monde, on finit par se demander si ses succès lui appartiennent ou sont juste l'héritage d'un système mis en place par Lancaster. Finalement, le plus insupportable, bah, c'est que les chiffres sont quand même de son côté. Malgré l'ennui, les centaines de coups de pied, les milliers d'actions à deux à l'heure, bah, Jones, il affiche quand même un bilan de 77% de victoires. Lui, le petit comptable du rugby qui aime les chiffres, les datas, les choses raisonnables s'en satisfera. Pas sûr que le public anglais et que la presse s'en contente. Le rugby est un sport où l'émotion doit primer et Jones n'en génère plus qu'un seul, la saturation.
On a bien compris que tu n'étais pas un pro Eddie Jones. Est-ce que vous avez le même avis que ouais, Pierrot?
J'ai la chance de le connaître. Enfin, c'est...
On n'attaque pas les copines, c'est ça?
Non, pas du tout. Après, quand il annonce avant le tournoi, dans cette période un peu trouble, il va falloir donner du plaisir aux gens.
On s'est régalé.
Pourquoi il dit ça, quoi? Il rassure personne. Enfin, non, mais je veux dire, voilà, j'ai l'impression qu'il parle beaucoup trop et qu'il faut qu'il se reconcentre un peu sur le rugby. Qu'il a quand même dévoilé, il a quand même dit, il nous a expliqué que les 5 joueurs qui n'avaient pas joué depuis 2 mois, c'était un avantage pour eux. Oui. On a toujours su que quand tu n'as pas de rythme, quand t'as pas que tu ne joues pas, que tu as tes matchs, tu vas te manquer quoi, le rythme. Ouais. Voilà, enfin bon, il faut
laisser-leur un peu de temps, les Anglais, ouais. C'est pas ouais. Fini.
Non, mais, ouais. Non, mais attention, on va les jouer au 3e match.
Là, on fait nos Français,
mais ils seront en forme. Au 4e match. Là, ils seront en forme.
Vaut mieux les jouer en début de tournoi.
Ah oui, parce que là, ils sont à la rue totale.
Et vous qui ne vont pas bien aujourd'hui, mais dans quelques mois, en 2023, ils seront sans doute pas très très loin du compte.
On est d'accord.
Oui, parce qu'il avait dit qu'il allait cacher un peu son équipe.
Ouais, là, il cache bien. Cache drôlement bien parce que ça fait quand même un an qu'ils sont horribles à voir jouer. Là, j'ai pris le match contre l'Écosse, mais c'était la même chose le tournoi dernier. C'était la même chose là, la Autumn Cup. Vous avez vu les matchs. C'était affreux de voir l'Angleterre. Même quand ils ont joué contre l'Italie, je crois qu'ils ont mis 55 coups de pied. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas possible de ne pas assumer le fait d'être une équipe de rugby à ce point-là. On joue plus au ballon, il y a absolument plus rien. Et on peut pas vraiment mettre ça sur le compte de la fatigue ou de je sais pas quoi. C'est juste qu'ils ont aucune ambition. Et c'est ça qui me fatigue.
La différence aussi, c'est que t'as des joueurs qui... tes joueurs clés qui sont pas au niveau aujourd'hui. À l'inverse de l'équipe de France, où nos magiciens, ils sont au top dans quelques mois, quand Farrell aura peut-être retrouvé la tête à l'envers, à l'endroit,
Vunipola
et compagnie, ça sera sans doute un peu différent.
Ah non, mais totalement.
Il
mais
était beau en photo, Farrell.
Les Anglais restent une valeur sûre, mais après, c'est vrai qu'il a cette prétention d'avoir espéré que ses joueurs soient au niveau, même contre l'Écosse. Voilà, donc ils sont passés à travers.
Ils jouent son rôle, comme d'autres jouent leur rôle. J'ai l'impression que tous les sélectionneurs aujourd'hui sont enfermés dans la caricature d'eux-mêmes, à force.
Oui, puis après, alors regardez ce que disait Laurent Labitte aussi, dans le middle, il disait on peut cacher notre jeu, quoi, un peu aussi à la Coupe du Monde, c'est en 2023, et on n'est pas obligé
de trop
nous dévoiler.
Le jeu, quand même.
S'ils peuvent venir nous foirer notre Coupe du Monde, ils seront là, ne vous inquiétez pas, quoi.
Enfin, vu ce qu'ils montrent, je suis pas sûr.
Rappelez-vous 2007,
Il y a encore un peu de temps.
Je suis pas sûr. Il y a du temps, mais la poule, il va être compliqué pour les Anglais, et puis il y a du temps, mais il y a de moins en moins de matchs.
Attention, Eddie Jones, qui soit en 2023 à la Coupe du Monde.
Attention. Qu'est-ce que tu veux dire, Denis ?
Tu verras, tout dépendra des prochains matchs.
Ah ben d'accord, donc tout dépendra. Donc c'est pas
je
pense que les Anglais garderont pas un sélectionneur. Il se fait taper dans la presse par tout le monde en Angleterre. C'est chaud pour lui.
On lui pardonnait son caractère parce que les résultats étaient là. Je pense que si les résultats sont
il avait déjà vécu une
découpé aujourd'hui.
La semaine prochaine, il joue l'Italie, les enfants.
Franco Smith l'a dit, peut trembler.
Les pauvres Italiens.
C'est vrai que les pauvres Italiens vont.
On va s'en faire en Angleterre.
Angleterre revancharde dans la semaine prochaine. Ça va être compliqué. Italie, Angleterre-Italie plus exactement. Donc ce sera samedi à 15h15. Match qui sera suivi par l'affrontement des invaincus entre l'Écosse et le Pays de Galles. Et puis dimanche. Donc
attention aux Écossais, Christophe. L'année dernière, ils ont fait chuter quelques nations comme la France.
Ouais.
C'est des chiens de la casse un peu, je trouve, avec pas mal de joueurs de talent. Un Stuart Hogg XXL. Un Finn Russell qui sort un drop, il tue deux taupes.
On critique pas Finn Russell comme on critique pas Teddy Thomas. On respecte les magiciens.
C'est un peu ça.
Mais on en parle pas trop de l'Écosse, mais bon. Voilà,
ah bah oui, il va falloir la jouer l'Écosse. Hein. Là aussi, ce sera le troisième match pour l'équipe de France. Heureusement, on la reçoit. Enfin, l'avantage du terrain de recevoir, ça ne veut plus dire grand-chose en ce temps de pandémie. Les Bleus seront donc eux en Irlande, où ils n'ont plus triomphé depuis 10 ans maintenant, et ce succès 25-22 le 13 février 2011. Depuis, les Bleus ont fait un match nul avant de connaître 3 défaites consécutives. Est-ce qu'il est temps, messieurs, pour les Bleus de remettre les pendules à l'heure à Dublin, qui a quand même été longtemps une terre où les Français gagnaient, Denis, ça a été,
oui,
je me rappelle d'une époque de ta génération, même après, le match en Irlande, c'était
contre
une
des
formalité.
Tu jouais contre des boiteux, des aveugles et des malades.
Je sais pas, vous n'avez pas le souvenir, mais ça a toujours été des combats incroyables.
Oui, le fameux fighting spirit.
Non, mais tu gagnais jamais dans la facilité. C'était, moi, j'ai le souvenir du Grand Chelem qu'on gagne là-bas. Si tu perds, c'est pareil.
Ça donnait quoi?
On avait gagné. C'était énorme. La Zone Road, c'était avec le
train pas loin, qui
passait sous le truc. Mais c'était un autre. Alors, c'était beaucoup plus évasé parce qu'il y avait.
Quelques requins?
Rouquet, il y avait que ça.
Il y a plus de rouquets à l'époque.
Des rouquets qui te prenaient bien bas, tu vois, qui te châtiaient au niveau des chevilles. Non, mais c'est pénible.
Toi, le bel homme qui arrivait avec ton ballon.
Mais franchement, aujourd'hui, faut rester sur la photographie que l'on a eue du match d'hier. Moi, je vous dis, ça va être très compliqué parce que les Irlandais ont une espèce de revanche à prendre contre nous de l'an passé. Ils ont perdu au Pays de Galles. Ils vont vouloir gagner à tout prix.
Ce qu'ils vont nous proposer, Denis.
Et juste un mot. Sexton sera là? Après le chaos qu'il a reçu sur la
pelouse. Lui dit que ça va.
Mais ça va, mais il a pas fait le protocole commission.
Non, il n'a pas fait, apparemment. Et juste pour rappel, les règles de World Rugby, c'est s'il y a suspicion de commotion, le joueur doit passer un protocole. S'il y a commotion, le joueur ne passe pas de protocole. Là, la commotion était évidente, puisque les caractéristiques, c'est convulsion, perte de connaissance, problème pour tenir debout, confusion, désorientation et regard dans le vague. Il a à peu près eu les 6. Donc le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui Sexton, il a fait plus d'une quinzaine de commotions dans sa carrière et qu'il peut se retrouver à 40 ans à plus être capable de compter jusqu'à 10, mais qu'il risque d'être titulaire quand même contre l'équipe de France. World Rugby avait fait une grande campagne pour protéger les joueurs en expliquant qu'une commotion, c'est une blessure au cerveau. Et ben j'espère que World Rugby pourra se saisir de ce dossier-là et non pas empêcher Jonathan Sexton d'affronter la France, mais le protéger, parce que franchement, ça devient dangereux pour lui et peut-être même pour la suite de sa vie, tout simplement.
Je ne veux pas dire de bêtises. Il est bien représentant des joueurs au syndicat international des joueurs de rugby.
C'est ça qui est fou.
Ce mec-là, doit montrer, enfin, est censé défendre les joueurs. Ce qui se passe là, s'il joue dimanche, c'est irréel.
Ça peut être gravissime. S'il fait une deuxième commotion, il peut perdre la vie.
Voilà, parce que quand les commotions sont très rapprochées, c'est là où elles sont le plus dangereuses.
Elles créent des dégâts irréversibles sur le cerveau. Jonathan Sexton, je vous ai dit, c'est plus d'une quinzaine de commotions en 10 ans. Rappelez-vous, je crois que c'était en 2011. Ça devenait même un objectif pour certaines équipes. Certains joueurs de l'équipe de France nous l'avaient dit en off. C'était qu'il fallait viser Jonathan Sexton, notamment Mathieu Bastaro. Et qu'aujourd'hui, c'est un vrai danger pour lui et puis pour l'avenir du rugby. Imaginez qu'un joueur de la trempe de Jonathan Sexton, dans 10 ans, il porte plainte contre World Rugby en expliquant que aujourd'hui son cerveau c'est du yaourt. Ce serait dramatique.
Il va surtout porter plainte contre le médecin de l'équipe d'Irlande ou le médecin référent sur le match, parce qu'il y en a un médecin. C'est avant de porter plainte contre World Rugby, c'est contre les médecins qui va devoir se retourner.
Et même contre lui, parce que c'est à lui aussi de dire voilà,
un joueur il a toujours envie de jouer, Christophe.
Après 20 ans plus tard, t'as pas le droit de porter plainte contre lui. Mais c'est ça le souci aujourd'hui.
C'est aussi des gars qui t'expliquent.
Il a dit qu'il voulait aller à la Coupe du Monde 2023. Hein. Il l'a dit à la sortie de ça, match. Il a dit c'est vous. Ah, il s'est adressé à la presse. C'est vous qui voyez le mal et tout sur sa commotion. Et moi, je veux aller jusqu'à la Coupe du Monde 2023.
Ouais, il va y aller en déambulateur, c'est le problème.
Allez, pour terminer, un petit côté fermé.
RMC, entre les poteaux.
Côté fermé.
Plein de choses aujourd'hui dans le middle, Manu. Hein, vous en avez fait partout. Il y en a partout, plein d'infos. Il y a une très belle interview de Yannick Bestaven, le vainqueur du Vendée Globe. Très sympa. Ouais, Rochelet, évidemment, Pierrot et
non, mais si, ce qu'il raconte. C'est chouette ce qu'il raconte.
Ouais. Non. C'est pas pour rendre hommage à nos amis Rochelet. C'est parce que j'ai écouté le Moscato Show la semaine dernière. Et je vais vous raconter les coulisses et la cuisine. Et je suis tombé sur ce type-là que j'avais vu en vidéo ou en interview à son arrivée. Et au Moscato Show, je me dis mais il est génial. Il est frais, il aime le rugby. Tu sens que il est plein de joie, plein de plaisir et tout. Il partage des trucs. Et j'appelle Denis. Je lui dis Denis, aide-moi à trouver son numéro. Et Denis l'a fait.
En fait, c'est le travail de Denis cette interview.
Donc je paye Denis.
Voilà, c'est ça. Tu ne payes pas quand il écrit, mais tu le payes quand il te file le numéro.
Maintenant, je vais le payer, Denis. On a fait l'interview de Yannick et il parle de rugby. Il parle de tous ses potes qui ont joué au rugby. Il adore La Rochelle. Il a pris ses places pour aller voir la prochaine finale de Top 14. Il a pas précisé l'année, mais il a déjà les places. Il a le maillot de La Rochelle. Enfin voilà, l'histoire elle est géniale. Donc on a pris un vrai vrai plaisir à la partager avec les lecteurs.
Et il est très sympa. Interview très sympa donc à lire dans le Midi Olympique du jour. Voilà pour les poteaux du jour. Nous aussi, on a terminé. Tu vas prendre un peu le chèque là. Denis,
oui,
pour la semaine prochaine.
Grave.
Il a le sourire. Il sait qu'il va être payé par le Midi.
Je n'ai jamais été payé par le Midi. Toujours fait des choses bénévolement.
Fais gaffe parce que Manu avait promis d'inviter tout le monde à bouffer la semaine dernière.
C'est les valeurs quand même, le middle, le rugby. Manu, c'est le middle, c'est les valeurs. Pas d'argent entre nous.
Denis sait ce que ça veut dire. Et évidemment que le middle, c'est des valeurs. Et puis c'est ses amis. Voilà. Il les a toujours eus pendant toute sa carrière avec Jacques et compagnie. Et ça ne change pas.
Très bien.
Je vais chialer.
Merci les amis. Vous pouvez pleurer la petite larme.
Apéro bientôt les enfants.
On s'embrasse tous et on se retrouve lundi prochain évidemment pour une nouvelle édition d'Entre les poteaux. Bonne semaine à tous.